planète, ils sont devenus pure vision de l'esprit.
Je nourris des perspectives, nuances.
Partie des chaînes
en direct des studios de Radio Galère.
Alors, Segundo Partos de Oscangaceros, la suite de l'émission de la semaine dernière sur ce groupe des années 80 et dont on parlera aujourd'hui, notamment au travers de leur publication en trois numéros du même nom qui était sorti en 85, 86, 87.
Donc, on va commencer l'émission par le rapport sur Marseille qui était tiré du numéro 1 et qui nous fait faire un tour dans le Marseille des années 80.
Et ensuite, comme sujet, la prison, vu au travers des écrits, des actions et des dires de ce même groupe. Voilà, pour une heure d'émission avec N des chaînes.
Gardez la haine.
L'État voudrait nous faire prendre une abstraction pour la réalité. Enfin, la réalité comme une fatalité. Donc, c'était pour faire une transition, il fallait ce qu'elle valait. Et donc, voilà, c'était donc sur la note éditoriale du premier qui parle beaucoup de la crise et aussi de ce qui se passe en banlieue, donc qui passe par beaucoup de villes, du sud jusqu'au nord. Et donc, ils ont fait un travail, donc c'était en 80, donc 84, 85, un gros travail sur la ville de Marseille, parce que certains en étaient, on dira. Et donc, on va écouter maintenant. Qu'on a tiré d'un montage qui a été fait par Basse Intensité, dont on vous parle assez souvent, et sur lequel, notamment, vous pouvez trouver tout ce qu'on va pouvoir vous faire écouter aujourd'hui.
Et télécharger toutes les revues.
Télécharger le livre, télécharger tous les montages qu'ils ont faits, et notamment un dernier truc sur les 13 000, on vous en parle après. Et donc voilà, sur Basse Intensité, vous allez sur Internet et vous pouvez trouver. Donc voilà, tout de suite, on va écouter ce rapport sur Marseille. Et je vous en toucherai deux, trois mots juste derrière. Bonne écoute sur Radio Galère 88.
Marseille n'est pas une ville très civilisée. C'est une ville exclusivement vouée au trafic marchand et il n'est rien qui n'y soit déterminé par les impératifs du trafic. La cité entière est consacrée à cette activité et à rien d'autre. C'est la circulation des marchandises qui a édifié cette ville, à sa convenance et à son image. Nulle trace de passé historique. La marchandise ne laisse rien derrière elle, se contentant de passer.
La bourgeoisie ne s'affiche pas dans le centre de Marseille. Et contrairement à la plupart des villes françaises, le centre-ville n'est pas fait à son image. Elle préfère se loger en retrait du champ des opérations, dans ses quartiers réservés, loin du port, des usines et des HLM. Cette discrétion de la classe bourgeoise ne doit pas tromper. Ici, la passion de l'argent s'exerce sans aucune retenue. Une grosse part du trafic national fait obligatoirement étape à Marseille. Si la circulation proprement dite des marchandises constitue l'essentiel de l'activité urbaine, un tiers de la population survit du port, de façon directe ou indirecte.
Un tel va-et-vient de marchandises, avec toute l'activité qu'il engendre, a de tout temps attiré des pauvres sans réserve du bassin méditerranéen. Plusieurs vagues d'immigration se sont succédées, sur lesquelles s'est édifiée la prospérité marchande de la ville. Italiens, Corses, Siciliens, Espagnols, Africains, Arabes, sans parler de l'arrivée des Pieds-Noirs, qui tous ont débarqué là, affamés par la nécessité et contraints aux travaux les plus durs, attirés comme des insectes par la lumière. Les impératifs de la marchandise ont donc déporté là des masses d'individus qui s'y sont agglomérés dans l'isolement et dont chaque atome individuel est laissé en proie à la nécessité. La moindre manifestation d'indocilité de la part des travailleurs réveille la haine et la peur chez la bourgeoisie, car il constitue pour elle une menace confuse et permanente. Elle entend alors se venger des pauvres, de peur qu'un jour les pauvres ne se vengent définitivement d'elle.
Si la marchandise ne connaît pas de frontières et peut circuler librement, il n'en est pas de même pour les pauvres, enfermés dans leur zone de réserve, objet du marchandage entre États. Je pense que ces problèmes ne peuvent être résolus que d'une seule façon, par un accord entre les gouvernements qui fournissent la main-d'œuvre et ceux qui l'utilisent. Gaston Defer. Pourtant, la bourgeoisie locale qui a pu reconstituer sur place ses propres réserves de pauvres n'a pas besoin désormais d'un recrutement massif, mais d'un recrutement limité de travailleurs qui seront à sa merci, tels les travailleurs clandestins, tirant ainsi profit de la concurrence sauvage qu'elle a instituée sur le marché du travail. La ville dégage une ambiance générale d'hostilité. À Marseille, de près ou de loin, tout le monde trafique, chômeurs à vie comme travailleurs. Submergé par le flot impétueux des marchandises, chacun essaie désespérément d'en tirer un maigre parti et de gagner un petit peu d'argent âprement disputé. Dans ce torrent qui traverse la ville entière, des individus sont noyés, engloutis dans la boue quotidienne. Dans ce mouvement de circulation infini, chacun est sacrifié sans vergogne. Marseille est une métropole carnivore.
La jeunesse prolétaire de Marseille n'a pas trop envie de travailler, surtout aux tarifs en vigueur dans cette ville. Mais il est également difficile de gagner de l'argent de façon durable par la reprise individuelle. Les risques sont gros et les liquidités bien gardées, salopes. Tous ceux qui possèdent quelques biens vivent dans l'anxiété, largement amplifiée par l'information spectaculaire. Cette psychose ne date pas d'hier. Marseille est la ville la plus fliquée au mètre carré. L'axe central où tout le monde converge, la Canebière, est infesté de porcs. Civils difficilement repérables, maîtres chiens, fourgons de CRS stationnés presque toute l'année aux différents carrefours. Présence ostensible et arrogante de la police, qui accroît d'autant le sentiment d'insécurité chez les pauvres, dans une ville où rien n'est sûr pour eux. Contrôle fréquent, garde à vue dans le seul but d'impressionner et de rappeler par tous les moyens qu'ici, la police entend ne s'embarrasser de rien pour faire régner l'ordre. Les porcs bavent de peur. Peur d'une populace ressentie comme hostile. Peur de cette jeunesse qui comprend de plus en plus clairement la nature de son sort. Gibier d'usine ou gibier à flic. Ici, la jeunesse se trouve massivement traitée sans égard, ennemi potentiel auquel l'État doit imposer la réserve par la terreur.
Il y a 10 ans déjà, l'ennemi s'en prenait aux voyous en général. Petit à petit, il a compris qu'il était de son intérêt de réduire ce qu'il y a de général dans la révolte chronique des chômeurs à vie à quelque chose de particulier. C'est ainsi qu'il s'en prend maintenant aux Arabes en particulier. À Marseille, le racisme anti-arabe qui a remplacé le racisme anti-italien est institutionnalisé par la droite et par la gauche qui s'en repaisse avec délectation. Malgré les manipulations, les tentatives de division, racisme, et les tentatives de récupération, anti-racisme, la nouvelle génération a su se trouver un adversaire et crée de ce fait une situation de plus en plus préoccupante pour les partisans du vieux monde. Se créent ainsi des zones de non-droit, selon le féminisme policier, en fait des zones de haute insécurité pour les flics. À chacune de leurs apparitions, les voitures de police étaient saluées par des gerbes de pierre. Nous étions interdits de séjour dans cette jupe, la Busserine, déclare un commissaire de police. La police n'a pratiquement plus les moyens d'intervenir dans certaines cités de la ville où les populations se sont littéralement mobilisées contre elles. C'est devenu systématique, à chaque intervention policière, pour n'importe quel motif. Dès qu'un fourgon ou une voiture de police arrive, c'est l'alerte. Les policiers en tenue ou en civil sont entourés, on leur conseille de repartir bien vite. S'ils ne tentèrent pas, c'est l'émeute.
À l'occupation policière s'ajoute toute une politique d'encadrement. C'est le syndicalisme du cadre de vie, inspiré du syndicalisme tout court. Cette politique consiste à créer des comités, des centres culturels, des associations qui, à l'exemple des syndicats, appellent à la participation ou mieux, à la collaboration. Et qui ont tous pour fin de policer les gens. Derrière le masque de l'animateur se cache la grimace de l'indicateur. De la même façon que l'on demande aux pauvres de gérer leur propre exploitation, l'État leur demande en plus de gérer leur isolement, vœu aussi pieux que vain. Le mépris vis-à-vis des pauvres a tout de même des limites qui sont ces pauvres eux-mêmes. Ainsi de faire a-t-il mis en place les comités d'intérêt de quartier, les CIQ, qui bien entendu regroupent les seuls habitants qui ont un intérêt quelconque en ce monde, les commerçants. Les CIQ sont surtout des moyens de contrôle et de délation. Encouragés par la municipalité, ils ont dernièrement permis la constitution d'un comité de liaison police-population. Afin d'établir un climat de confiance entre citoyens et policiers, il est recommandé aux membres du comité de fréquenter personnellement plusieurs policiers et si possible de faire inviter dans les familles les CRS étrangères à la ville. Citation d'une circulaire de juin 1982.
La troupe des éducateurs et sa piétaille gauchiste avaient pour mission première de devenir les médiateurs nécessaires puis indispensables entre la population et la municipalité, l'office HLM bastion stalinien et la police, qui tous avaient reçu pour consigne de jouer le jeu. Cela devait permettre à ces sincères représentants du pouvoir de contrôler en douceur chaque quartier. Rien ne devait donc plus se faire sans passer par leur intermédiaire. Ils devaient être les yeux, les oreilles et la bouche du pouvoir.
Quand le mensonge sur lequel s'appuie l'activité politique et policière est compromis, comme celui de communauté nationale, auquel seuls les bofs qui constituent la classe moyenne sont encore sensibles par purs intérêts corporatistes, il reste encore, comme ultime recours de se rabattre sur une autre forme de la communauté, la religion. Sous le couvert de cette communauté mythique, la bourgeoisie, qu'elle soit juive, chrétienne ou musulmane, peut se livrer sans retenue et sans scrupule à sa passion, l'argent, tandis que les pauvres continuent d'être en proie à cette nécessité, l'argent. Quand cette chose-là perd son caractère sacré et que les gens se livrent de plus en plus à l'activité profane du vol, ou mieux, du pillage, l'ennemi se hâte de les enfermer dans une pseudo-communauté. Dans la bouche d'un flic, le concept de communauté signifie diviser les gens pour faire régner l'ordre. Racistes et antiracistes s'y emploient avec l'énergie du désespoir. C'est ainsi que la politique de prévention entreprise depuis plusieurs années à coups de centres sociaux, culturels et de mosquées s'est trouvée à l'épreuve du monde où il n'est pas question de médiation mais de guerre. Dans cette lutte pour la vie, beaucoup entendent désormais se servir eux-mêmes selon le vieil adage « ce que l'œil voit et convoite, que la main s'en saisisse », sachant pertinemment que dans cette histoire pleine de bruit et de fureur, c'est encore celui qui s'écrase qui en prend plein la gueule. La guerre sociale continue.
Oui, donc... Voilà, ça c'est qu'un extrait en fait de tout le texte qui s'appelle Rapport sur Marseille, donc dans ce livre Scangaceros, les trois volumes ensemble. Et donc grosso modo ça fait 25 ans déjà et ils n'ont pas pris une ride. Et donc toujours c'est plus de fric, plus de CQ, plus d'urbanisme, plus de racisme que jamais. Alors avant c'était anti-italien, contre, c'est passé anti-arabe, anti-rom, même anti-pauvre. Plus de crise ici comme ailleurs d'ailleurs. Et encore de répéter que l'État voudrait nous faire prendre une abstraction pour la réalité et la réalité comme une fatalité. Voilà, vraiment pas grand-chose à rajouter sur ce rapport sur Marseille. C'est vraiment à lire et toujours d'actualité, toujours d'actualité. Dédicace à tous les kids d'Angleterre. Je savais l'irrationalisme de ma théorie qui était inapplicable pour fonder une société, mais qu'était-elle cette société avec ses beaux principes et ses lois ? Mesrin, l'instinct de mort. Ils en parlent aussi dans Scangaceros.
Parle de tout, quoi.
Et donc, on a parlé des prisons, solidarité avec tous les incarcérés.
Donc, ouais, parce que Scangaceros s'est pas mal solidarisé des mouvements de révolte qui agitait les prisons françaises en 85. Ce mouvement, il a débuté à Fleury-Mérogis par un refus de plateau. Rapidement, un peu partout, il y a les prisonniers qui se soulèvent et qui se mobilisent. Ils refusent de remonter de promenade, ils saccagent leurs cellules, ils détruisent des installations, ils montent sur les toits. Parfois même, ils y déroulent des banderoles, par exemple, « Ils veulent nous tuer ». Scangaceros se mobilisera donc avec tous ses actes de révolte par plusieurs actes de sabotage, histoire de faire sortir des murs les revendications des prisonniers, faire entendre à l'extérieur le bruit qu'il y avait à l'intérieur. Et donc, on va vous passer un petit récit de l'un de ces sabotages.
Aborder une expérience de sabotage qui a lieu en 1985. À l'époque, il y avait de nombreuses émeutes dans toutes les prisons françaises. Un petit groupe de gens s'était organisé pour faire connaître et rendre notoires et publiques les revendications des émeutiers. On avait décidé d'arrêter un train chargé de cadres qui circulait tous les matins entre Paris et Bruxelles, je crois, Paris et la Belgique. Et donc, nous, vers 5h du matin, on s'était approché de la voie ferrée. Il faisait encore nuit, il y avait une brume épaisse. Et le projet, l'idée... On n'avait rien vérifié à l'avance. Pour arrêter le train, c'était de relier à l'aide de câbles de batterie les deux rails d'une voie ferrée à la base du sémaphore qui, lorsque le contact était mis entre les deux rails par l'intermédiaire de ce câble, passait du vert au rouge. Et donc, le conducteur du train devait arrêter son train à la hauteur du sémaphore. Et c'est ce qui s'est passé, le train s'est immobilisé, on était une quinzaine par là, et on avait de nombreux tracts qui parlaient des émeutes dans les prisons, qui reprenaient la revendication des émeutiers. Et on avait dans l'idée donc de les jeter dans le train. Et c'était assez difficile parce qu'il y avait des vitres de haute sécurité évidemment, mais une portière s'est ouverte, il y a eu des cris à l'intérieur, tout le monde était paniqué, à 5h du matin ces braves gens allaient tous travailler, ils ont été un peu surpris quoi. Mais on a réussi à jeter à l'intérieur des tracts, à casser quelques fenêtres quand même, et puis on a peint les mots d'ordre des émeutiers sur plusieurs wagons quoi. Et voilà, on est reparti ensuite dans la campagne, dans nos voitures, et puis on a disparu. Évidemment, se pose la question des relations avec les médias ou de l'usage qu'on fait des médias. Dans ce cas-là, il s'agissait de donner le maximum d'effet à des revendications, aux revendications des prisonniers. En fait, dans la presse, il était question des émeutes, il était question des destructions, mais les médias, justement, se taisaient sur le contenu de leurs revendications, ce pourquoi ils voulaient en finir avec les prisons. Donc, en commettant ces actions-là, on était assuré d'attirer l'attention des médias sur nous, donc d'amplifier aussi les revendications des prisonniers, de les donner à connaître plus largement. Mais après, les médias, c'est une arme aussi à double tranchant, parce que, évidemment, ils écrivent ce qu'ils veulent. Par exemple, ils nous traitent de terroristes, et ça devient des terroristes qui soutiennent des émeutiers, ou des émeutiers qui soutiennent des terroristes. Enfin, ils introduisent une confusion totale, quoi. Et après, les médias, dans les premiers jours, ils ont été surpris. Il y a une espèce de course, parce que justement, ils n'avaient pas l'initiative. Donc, il y a une espèce de concurrence qui s'est établie entre eux, y compris avec l'État, entre l'État, les médias. Il y a une concurrence qui s'est établie, il y a une surenchère entre eux. C'est ce qui a fait que... Ils ont en fait parlé explicitement du contenu de nos propres exigences dans leurs journaux. Quoi. Et après, c'était suivi d'un blackout total. Deux jours après, il n'était plus question de rien. Donc je pense qu'il y a quand même une leçon à retirer là-dedans. C'est au niveau de d'agir sur un terrain qui ne soit pas celui de l'ennemi.
Lors de ce sabotage et un peu ailleurs aussi dans d'autres villes et aussi à la radio, a été diffusé un tract qui s'appelait donc La liberté, le crime qui contient tous les crimes, qui est aussi reproduit dans la revue, dans le numéro 2, que vous pouvez lire en entier d'ailleurs, parce que là, on va vous en lire juste quelques bouts.
Donc c'est La liberté, c'est le crime qui contient tous les crimes. Nous avons beaucoup d'amis en tôle, nous-mêmes sommes du foutu gibier de prison. C'est dire que nous sentirons venir depuis longtemps l'actuelle vague qui a commencé le dimanche 5 mai par la mutinerie d'une partie de Fleury-Mérogis. Les détenus ne pouvaient pas supporter davantage les saloperies auxquelles se livrent de plus en plus ouvertement les matons. Ceux qui nous parlent de surpopulation dans les prisons sont ceux-là même qui les ont remplis à craquer. Et évidemment, ils prennent les choses à l'envers. Pour nous, il ne s'agit pas de construire d'autres prisons, mais de vider celles qui existent déjà. L'exigence des détenus révoltés est claire, la liberté. Ils ne la négocient pas avec l'administration pénitentiaire. Ils commencent à la prendre. Monter sur les toits, c'est de la liberté arrachée à l'État. On prend l'air, disent-ils. L'espace de quelques heures, ils bavardent à l'abri des oreilles douteuses, parlent par-dessus les murs à leurs copains dehors, insultent la charogne qui les réprime, lui jettent des tuiles. Enfin font parler d'eux. C'est ça, les vrais parloirs libres.
La liberté est le crime qui contient tous les crimes. Et c'est contre ce crime-là que le vieux monde se défend. L'État est en train d'éliminer physiquement toute la belle jeunesse qui ne se résigne pas. Cette même jeunesse qui meurt assassinée par des flics ou des beaufs. Ceux que la justice peut coincer. L'État les enterre vivants dans ses prisons, les plus longtemps possible, terrorisant du même coup ceux qui ont réussi à rester dehors. Pour cela, il paie des éducateurs et autres mouches à merde qui se chargent de les démoraliser et de leur faire oublier les copains en tôle. Les cités de banlieue se vident de leur jeunesse, les prisons se remplissent. Voilà le secret de la surpopulation. Les larbins de l'État voudraient faire croire que ce serait une question de crédit. La surpopulation serait due à un mauvais fonctionnement du système pénitentiaire, alors qu'elle est due au fonctionnement optimal du système judiciaire. La seule manière de régler la surpopulation dans les prisons, c'est bien évidemment de les vider, comme l'ont dit les émeutiers de Fleury. Sur ce point, ils ont été on ne peut plus clairs. Ils s'opposent à la construction de nouvelles prisons dans la déclaration signée « Les 600 meneurs ». Ceux de Montpellier ont apporté une solution pratique à la surpopulation. Ils ont détruit la quasi-totalité des cellules. C'est contre la justice, et plus précisément contre cette prise d'otage, qu'est la détention préventive, qui condamne d'office à une peine de prison indéterminée, ensuite au moins confirmée, sinon aggravée par jugement, que se révoltent les tôlards.
Les affaires judiciaires et carcérales restent presque toujours des affaires privées, où chacun reste impuissant, dans son isolement, que ce soit dedans, dans l'attente de son procès, ou dehors, pour ceux qui ont des amis en prison, et qui bien souvent ne peuvent rien faire d'autre que les assister financièrement et leur rendre visite. Les mutins ont avancé les revendications immédiatement praticables qui visent au moins à faire sortir le plus de mecs possible. Ces exigences sont une offensive des détenus contre leur isolement et un appel à ceux qui sont dehors pour qu'ils agissent pratiquement à briser cet isolement. Il s'agit d'exercer une pression contre la société, d'emmerder le monde avec ces prisons dont ils voudraient bien ne pas entendre parler. Oscar Gaceros, début juin 85.
Never look behind the scenery.
Hormis ce sabotage, Oscar Gaceros en a fait beaucoup d'autres, notamment certains qui se sont déroulés donc de fin avril à fin juin 89, qui ont été faits contre différentes entreprises qui étaient impliquées dans la construction des nouvelles prisons. Alors le groupe s'est introduit dans plusieurs sites où ils ont saboté le béton destiné au chantier en y mettant du sucre pour empêcher la prise du béton qui du coup devient friable une fois sec. L'idée c'était donc de faire perdre du temps et de l'argent aux entreprises qui construisent des prisons et du coup enrayer un peu l'énorme machine pénitentiaire. Ils ont aussi volé des plans de prison dans les mairies et cambriolé les locaux d'entreprises en charge des chantiers. Et au passage, ils y commettent des destructions. Ils ont aussi tabassé un architecte et à chacune de leurs interventions, ils envoyaient une petite lettre explicative.
Ces lettres explicatives, on les retrouve dans un gros dossier qui s'appelle les 13 000 belles.
Celui-ci visait à saboter le programme de construction de nouvelles prisons. Alors comment ? En diffusant des plans détaillés de certaines prisons le plus largement possible. Voilà, il s'agissait de faire parler des prisons et dans un autre temps saboter, enrayer la machine pénitentiaire. Donc ce sabotage-là, il est relayé dans un dossier qui s'appelle les 13 000. Dans ce dossier, il y avait des plans détaillés de certaines prisons donc du programme des 13 000, il y avait des directives de la chancellerie, il y avait une notice technique exhaustive provenant du maître du chantier, et il y avait surtout le point de vue du groupe dans un préambule. Et puis une chronologie des actions qu'ils ont menées en 89. Et là encore, on retrouve cette préoccupation de rendre public ce qui se passait dans les prisons. Et donc pour finir, ouais, peut-être rappeler juste que ce dossier-là, vous pouvez le retrouver sur Basse Intensité, sur le site de Basse Intensité. Préambule.
Depuis plus de 20 ans, un nombre grandissant de détenus n'admet plus la sanction. De même qu'hors des murs, ils rejettent les règles du jeu social. À l'intérieur, ils refusent l'expiation et la peine qui constituèrent pendant près de deux siècles la morale pénitentiaire, destinée à les maintenir dans l'écrasement. Aujourd'hui, les prisonniers de la démocratie non seulement contestent clairement la politique pénale d'un quelconque gouvernement, mais s'en prennent ouvertement au principe même de la détention. Pour parer à cette vague de contestation sans précédent, la chancellerie a mis en œuvre un programme de renouvellement et de modernisation des tôles, lui aussi sans précédent.
Alors que la séparation et l'atomisation sont devenues les conditions dominantes, rares sont les lieux où peut s'élaborer pratiquement une critique collective. Paradoxalement, la prison constitue encore un tel lieu. En témoignent les mouvements collectifs incessants qui secouent les prisons depuis 1985 et les réseaux de solidarité qui se sont constitués depuis. En dépit des traitements destructifs, des années d'enfermement supplémentaires, la rébellion revient périodiquement enflammer les tôles. L'exigence de liberté s'y manifeste sans ambiguïté.
Le sinistre programme des 13 000 répond avant tout à cette situation de révolte. Tout comme l'État restructure l'appareil industriel, il construit des prisons nouvelles normes, en désaffecte certaines, en rénove d'autres. On remplace des prisons vétustes d'où l'on s'évade, comme on dynamite des tours de cité HLM où l'on se révoltait il y a 10 ans. Pour Pour domestiquer l'insoumission des populations qu'on y a parquées, les grands ensembles de banlieue ont été rénovés policièrement et repeints aux couleurs de l'époque. On y trouve au milieu d'une même misère les attributs de toute société avancée, la police et le mensonge démocratique.
Avec les prisons nouvelles normes, c'est la modernité répressive qui s'introduit dans les murs. Le but avoué, c'est l'humanisation, la salubrité, le désengorgement, alors même que la chancellerie a exigé, comme on le lira dans la documentation technique, un surdimensionnement des équipements pour faire face à une future surpopulation. Le but réel, c'est de mettre ces lieux au diapason de l'ordre social. La pure répression a longtemps constitué le seul recours de l'autorité pour défaire la révolte. Désormais, il faut la prévenir d'emblée, l'étouffer dans la pensée. C'est aux mesures réformistes qu'échoit de plus en plus le rôle de contraindre les individus, non plus seulement à respecter les règles sociales, mais à les épouser. La réforme est la continuation par d'autres moyens de la répression.
Il s'agit d'isoler systématiquement les détenus entre eux. La conception architecturale des nouveaux établissements est réglée sur cet impératif. Des tôles de taille modérée où la dispersion, la division spatiale sont le principe essentiel. Chaque déplacement, tant horizontal que vertical, est aiguillé et régulé par des sas gérés électroniquement. Les dispositifs pour empêcher d'éventuels mutins de se rendre maîtres de l'ensemble de la détention ont été perfectionnés et surtout systématisés par rapport à la majorité des prisons existantes. Toute tentative de soulèvement devra prendre en compte ces obstacles à son extension. Gageons que la rage et l'ingéniosité des mutins en viendront à bout.
La responsabilisation est sans cesse invoquée pour plier les individus à la rationalité du travail, tout comme pour les amener à participer à la gestion de leur peine. La paix dispose déjà d'un arsenal de mesures coercitives pour individualiser la durée de la peine. Grâce et conditionnelle accordée au mérite, prétoire, quartier d'isolement et cachot, suppression des parloirs, d'activités, etc. La modernisation renforce et étend le champ des sordides calculs auxquels elle entend soumettre les détenus. Dans ces nouveaux pourrissoirs, les détériorations et les actes de vandalisme commis sous le couvert d'un relatif anonymat dans les anciennes tôles deviennent immédiatement localisables. Tout est prévu pour identifier et sanctionner directement leurs auteurs. Un des procédés les plus courants, faire sauter les plombs de tout tunnel, sera désormais localisé au moyen d'un boîtier à fusibles par cellule. Les canalisations des chiottes étant parfois bouchées pour inonder un étage, des siphons installés sous chaque cellule en gaine technique permettront de désigner instantanément l'auteur d'une vengeance bien naturelle. Voilà une application supplémentaire de contrôle individualisé.
Un système électronique sophistiqué qui enserre le détenu dans un réseau dense de surveillance prend en charge tous ses déplacements, parfois relayés par un système de badge magnétique. L'oppression devient de la sorte plus abstraite et tend à se travestir en cette gestion froide et impersonnelle qui caractérise si bien notre temps.
Les nouvelles forteresses sont érigées pour signifier à tous une maigre alternative. Soit subir les diktats d'une insertion forcée, soit endurer les rigueurs de l'exclusion. Le principe des quartiers d'isolement et disciplinaire a été renforcé. L'administration pénitentiaire pourra utiliser à loisir les 22 nouveaux quartiers d'isolement pour balader les réfractaires. Tout y est étudié pour que les occupants n'aient aucune vue, ni sur l'extérieur immédiat, ni sur le reste de la prison, mais aussi pour qu'ils n'en entendent rien filtrer. À l'arbitraire musclé du maton s'ajoute la terreur hygiénisée. Le raffinement avec lequel les concepteurs de ce projet se sont évertués à abolir l'idée d'une échappatoire, autre que le sport, la fiole, les études et le travail, a pour fin de borner l'univers mental des détenus, pousser l'isolement et la perte de tout repère encore plus loin en uniformisant la détention des maisons d'arrêt selon les critères de la haute sécurité des centrales. Voilà le souci d'humanisation annoncé.
Les hauts murs au cœur des villes se dressait comme un avertissement, un rappel à l'ordre, mais permettait parfois la curiosité et le soutien des passants en cas d'agitation. C'est maintenant loin des voies amies, sans témoins, hors des murs de la cité, que se manifeste la puissance carcérale.
Tout cet arsenal technologique n'a pas empêché que, dans les semaines qui ont suivi leur mise en service et avant même qu'elles soient totalement occupées, les prisons de Villeneuve, Tarascon, Neuvic et Saint-Mihiel aient déjà connu des mouvements de protestation. Malgré les dispositifs mis en œuvre pour leur interdire l'accès aux toits, les mutins y sont montés. Les détenus se sont attaqués d'entrée aux conditions les plus modernes de leur détention. Le contrôle par carte magnétique, la hausse des prix et le rationnement, consécutif à la privatisation de la distribution des repas et de la cantine. Les cellules individuelles. Il n'est évidemment pas plus humain d'être seul en cellule que de s'y trouver entassé.
Le silence auquel beaucoup se sont résignés dans la société rehausse d'autant la dignité des détenus insoumis. Ils ont su se faire entendre, malgré tous les risques, avec suffisamment de force pour inquiéter tous ceux qui gouvernent par les coups et le mépris. À chaque grève de plateau, à chaque refus de remonter des promenades, à chaque saccage des installations, à chaque mutinerie, les exigences qu'ils font valoir sont les mêmes depuis des années. Suppression des quartiers d'isolement, des mitards et des prétoires. Octroi automatique des remises de peine. Permission de sortie et libération conditionnelle. SMIC pour les détenus qui travaillent, parloirs intimes. Amnestie pour tous les mutins sanctionnés ou condamnés. Nous avons voulu leur rendre l'hommage qu'ils méritent en portant à la connaissance publique les plans et une documentation technique concernant certaines des nouvelles prisons où ils risquent de se voir transférés, sans négliger la possibilité de les leur faire parvenir par des moyens appropriés. Nous saluons l'esprit de révolte qui les anime.
Baby, you owe me. Oh, research and successful drug policy shows that treatment should be increased. Boy. And law enforcement decreased while abolishing mandatory minimum sentences. Boy. Law research and successful drug policy shows that treatment should be increased. Boy. And law enforcement decreased while abolishing mandatory minimum sentences.
Utilizing drugs to pay for secret wars around the world. Drugs are now your global policy. Now you police the globe.
Mother, I'm not crack, my smack, my bitch right here in Hollywood.
Drug money's used to rig elections and train brutal corporate sponsored dictators around the world.
They're trying to build a prison.
They're trying to build a prison. They're trying to build a prison. They're trying to build a prison.
For you and me to live in.
Another prison system. Another prison system. Another prison system.
For you and me.
They're trying to build a prison, they're trying to build a prison for you and me.
Pour terminer avec le dossier sur les 13 000, et ben, on écoute spécialement pour vous les lettres d'Os Cangaceros.
Paris, le 27 février 1990. Objet, guet-apens. Chez l'imprévu, rue de Citeaux, 75 012 Paris. Bien remis de tes blessures, l'architecte, tu as deviné pourquoi ? C'est sans vergogne, sans retenue d'aucune sorte que tu as élaboré, centimètre par centimètre, ces cages où l'on enfermera même des handicapés. Dans les murs que tu as conçus, des individus qui valent mieux que toi se feront régulièrement tabasser. Il est bon que tu aies reçu un avant-goût de ce que des milliers de détenus auront à subir à la puissance supérieure. Sûr, l'architecte, ta corporation n'en est pas à une infamie près. Vu ce que vous construisez pour loger des citoyens normaux, on devine vos compétences pour enfermer des délinquants. On passe facilement des tours du 13e aux cellules des prisons. Salopard, à voir ta trunque de près, nous avons pu constater sur ton visage fatigué combien tu t'impliques à fond dans tes projets. Avant, tu construisais les murs, maintenant tu vas les raser.
Le 5 février 1990, à l'attention de Béton de France, quartier Saint-Jean, Salon de Provence, 13 300. Objet, destroy. Monsieur, nous vous confirmons par la présente les termes de notre visite du jeudi 25 janvier de cette année. Votre béton a une odeur, celle des cellules. Vous croyez pouvoir le couler tranquillement pour enterrer vivants les futurs détenus de la maison d'arrêt de Salon de Provence. Le marché des 13 000 places qui devait assurer votre confort n'assure pas, en tout cas, votre sécurité. Notre passage l'a prouvé. Recevez une nouvelle fois, monsieur, l'expression de nos sentiments les plus ravageurs.
Destinataire, Orsa Béton, 02000 Laon, le 17-09-1990. Objet, notre passage dans vos locaux à la mi-avril 90. Vous, belle centrale à béton, vous content. Vous, construire prison Laon, nous fâchés. Nous, détruire pupitre de commande informatisée, vous fâchés. Nous, préférez vous fâcher, nous content.
Voilà, voilà. Et eux fâchés, très fâchés d'ailleurs, parce que, donc comme vous l'aurez compris, là, sur cette histoire des 13 000, qui était donc le problème des 13 000 places, nouvelles places qui devaient être construites et qui ont été construites depuis, pour soi-disant désengorger les prisons qui étaient donc en surpopulation, comme c'est toujours pareil depuis, ils construisent, ils remplissent, ils construisent, ils remplissent. Et donc, pour le coup, ils avaient réussi en s'introduisant, comme c'est expliqué, et en faisant des actes assez illégaux, à obtenir des plans et à les publier assez massivement, en les envoyant un peu partout, à des journaux, à des lieux publics, dans des bars, dans des endroits assez, assez étonnants, donc en faisant un énorme envoi et à quand même tenter à leur échelle d'enrayer tant que c'était possible la construction de ces prisons, quoi. Et donc s'en est suivi forcément eux fâchés, quoi, eux pas contents, et donc la traque policière qui allait de soi avec ce type d'acte. Là-dessus, on va repasser un témoignage.
Thank you.
actuellement, c'est... Voilà, bon, évidemment, il y a l'État qui cherche à nous isoler déjà par la police, par les contrôles et tout ça. Mais même à notre niveau, je pense qu'en final, ce qui a provoqué notre isolement, c'est qu'on s'est retrouvé dans un petit groupe de gens, dans un rapport de conflit direct avec l'État, quoi. Tu vois ? C'est-à-dire que plus ça allait, au moins dans nos têtes et des fois dans des lettres qui sont pas parues, mais on menaçait directement, tu vois, le ministre de la Justice, ou tu vois, qu'on allait lui casser la tête. Puis ça devenait une forme d'aberration, quoi. Là, on était sûr de perdre parce qu'on allait sur le terrain. D'autant plus pour nous qui avions critiqué assez sévèrement, enfin très sévèrement même, toute forme d'activisme, de militantisme, pour nous c'était pas un terrain sur lequel il fallait qu'on aille, mais on n'a jamais pensé que parce qu'on avait saboté des chantiers ou diffusé les tracts, le projet des 13 000 allait s'arrêter non plus, quoi. Mais enfin, c'est vrai qu'on a quand même un peu espéré, vu ce qu'on avait fait, que ça pouvait ralentir ce truc, tu vois, ou que ça allait les gêner. Peut-être que ça les a gênés quelque part, hein. Je sais pas, en fait, on n'a jamais su, quoi. Parce qu'en mettant des produits dans le béton des bétonnières, bon, ben, ce béton, il a quand même été utilisé pour construire des prisons, je sais pas. Peut-être qu'ils ont eu des problèmes de fuite d'eau, ou des murs qui tenaient pas bien, ou des trucs qui sont... Tu vois, qui déconnaient, quoi, je sais pas. Mais on n'a jamais pensé que ça pouvait tout arrêter, mais ce qui nous animait, c'était rendre public, tu vois, donner à connaître au maximum qu'avec des moyens à la portée de tout le monde, on pouvait, par exemple, enrayer ou ralentir ou saboter ce projet 13 000. On s'est jamais imaginé qu'on pouvait, à une dizaine, arrêter tout ça, quoi. Cette machine pénitentiaire en construction, là, ce grand furoncle. Mais par contre, on pouvait imaginer que sur d'autres sites où on n'avait pas été, d'autres le fassent. Et à ma connaissance, ça ne s'est pas fait. En fait, c'était ça aussi notre but. Hein. Parce qu'en final, on s'est épuisé, nous, complètement, parce que ça a duré près d'un an, plus d'un an, même la préparation de tout ça. On s'est épuisé, on a pris des risques énormes. Enfin, que je regrette pas avoir pris, hein. Je suis content d'avoir fait ça, hein. D'y avoir participé. Mais bon, au final, on s'est retrouvé super isolé, super épuisé, et puis un peu dégoûté, pour tout dire, quoi.
Ouais, d'ailleurs, vous déclariez, notamment derrière la problématique des médias, qui restait des questions plus substantielles, notamment, plus nous nous efforcions de causer des dommages importants au programme carcéral, plus grandissait parmi nous le sentiment désagréable que nous étions en train d'être engagés dans quelque corps à corps avec l'État. Défi qui, en tant que tel, était évidemment perdu d'avance.
Mais oui, parce que, enfin, je ne sais pas, moi, de... Enfin, de toute façon, ça n'a jamais été notre... On n'a jamais pensé qu'un groupe de 10 personnes pouvait... S'en prendre directement à l'État, enfin, ce qui nous concerne, nous. Enfin, s'en prendre à l'État, oui, mais lui porter des coups sévères, non. Mais pour nous, la question, ça a toujours été plutôt de chercher des alliés ou d'aller dans les endroits où, enfin, dans les premières années de cette activité, on allait toujours dans les endroits les plus conflictuels et tout ça pour chercher des alliés, quoi, des gens qui soient des chômeurs à vie ou des travailleurs qui ne voulaient pas travailler ou des travailleurs dans des mouvements de grève assez durs, ou des mecs de banlieue, dans certaines banlieues de Lyon ou de Paris, c'était chercher des alliés, on cherchait des alliés, en fait. Et puis, résultat de notre activité, ben, on se retrouve dipelés.
Ça veut dire que, donc, avec le recul, que vous avez... Ça a échoué, en tout cas, à ce niveau-là, pour dans l'idée de se rapporter avec d'autres gens, que ces pratiques-là de sabotage, notamment sur ces chantiers, comme tu dis, donc il y avait la volonté de rencontrer d'autres gens, et ça n'a pas forcément eu lieu, ou...
Mais non, ça n'a pas... Enfin, au cours des années, quand même, on s'est fait quelques alliés, hein. Enfin, il y a des gens qui n'étaient pas là au début, qui sont joints à nous par la suite, et puis même, on a rencontré sur des opérations ponctuelles, il y avait des gens qui faisaient des trucs avec nous, quoi, mais je pense que ça vient aussi de notre propre démarche, je veux dire, des alliés, on n'était pas non plus un groupe très, très ouvert, quoi, tu vois, on était aussi, et justement, ça, c'est aussi un autre aspect, je veux dire, plus la menace se fait, la menace policière s'aggrave, et plus t'es amené à te méfier, à prendre des précautions, il y avait plein d'endroits où on n'allait pas, tu vois, dans certains bars où on n'allait pas, on faisait gaffe sans arrêt, quoi, donc... C'est pas un truc qui est en fait propice au bavardage, quoi, tu vois, c'était plutôt propice à l'isolement, quoi, en fait.
Mais peut-être justement aussi, enfin ça c'est une notion que on a déjà abordé, mais peut-être pour nuancer un peu tant l'efficacité relative que l'isolement, il y a quand même le plaisir de la destruction. Non,
ça fait souvent. Voyez mandat qui brille. Ben ouais, bien sûr, ouais. Bien sûr. Il y a le plaisir de la destruction, bien sûr, mais ça, bon. Qu'est-ce que Candy, hein, du plaisir, j'espère qu'il se développe, hein, qu'il se développera. Mais dès le début de cette expérience, c'est assez marrant parce qu'il y a toujours une. Il y a toujours un débat là-dessus, sur le plaisir, surtout au début, dans les premières années, où il s'agissait vraiment de destruction, du plaisir de la destruction assez systématique, quoi. Mais il y avait aussi toujours un balancement entre... Enfin, je me souviens d'un texte d'un ami qui est mort au début, des premières années d'ailleurs, et qui avait écrit un texte on avait beaucoup parlé, qui nous avait fait beaucoup discuter entre nous, qui c'était « Mettre de la méthode dans notre furie », ça s'appelait. Où il y avait effectivement ce plaisir de la destruction, mais c'est toujours, on a essayé de lui donner un sens plus stratégique. Déjà à travers une revue, parce qu'une revue, c'est déjà quelque chose d'un peu plus construit pour faire une revue.
Ben justement, je trouvais une formule assez bien. Vous parliez du côté malicieux nécessaire à toutes sortes d'activités subversives.
Ah ben ouais, s'il n'y a pas de plaisir, c'est sûr que ça n'a pas d'intérêt. Hein. C'est quand même un critère, quoi. Le plaisir d'être ensemble, le plaisir de faire du mal à ce monde, le plaisir de trouver des ruses, le plaisir de niquer l'ennemi.
I am the god of hellfire, and I bring you fire.
Des chaînes.
Une émission radioactive.
Sans solution ni alternative.
Qui sa colère et ses haines.
Ses rêves et ses peines.
Sans manière et sans gêne.
Contre toutes les chaînes.
De l'école à la maison.
Du Turin à la prison.
Des lois aux élections.
Un syndicat aux négociations.
De l'aliénation à l'exploitation.
De la misère au pognon.
Du spectacle à la télévision.
De la morale à la religion.
De l'indifférence à la résignation.
De l'obéissance à la soumission.
Haine des chaînes.
De la graine de gangrène.
Pour briser nos chaînes.
Et trancher les veines.
De ce monde de merde.
Haine des chaînes, lundi
20h, 21h.
C'est une émission radioactive.
Monsieur des fourmis dans les jambes. Monsieur Ray. Banque de pillage. Monsieur pense que les poulets sont devenus pure vision de l'esprit.
perspective, nuance.
Vous avez une vue magnifique. Vous n'avez rien dû rater des émeutes. Vous n'avez rien dû rater des émeutes. Vous n'avez rien dû rater des émeutes.
Courage humain, on a déjà exterminé des espèces dans le passé. On peut le refaire. On peut le refaire. On peut le refaire.
Vous n'avez rien dû rater des émeutes.
On peut le refaire.